Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 7 novembre 2014. Deux thèmes sont au cœur de ce débat bespéral. D'une part, la situation Burkina Faso où Blaise Compaoré n'est plus dans son fauteuil de chef de l'État depuis vendredi dernier à cause de la pression de la rue. Et d'autre part, nous discuterons sur le rapport d'une business 2015 de la Banque mondiale avec un accent particulier sur notre pays. Dans ce rapport, la RDC est classée parmi les 10 pays qui ont amélioré leur environnement des affaires, mais nous sommes classés à la 184e place sur 189 pays. Trois confrères participent à ce débat. Nous avons Diana Gikoupa, il est éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Diana.
Bonsoir confrère.
Nous avons aussi Joël Kadidanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa, mais il est aussi président de la commission formation à l'UNPC. Joël Kadé, bonsoir.
Bonsoir chers confrères, bonsoir aux auditeurs de la radio La Paix.
Enfin, nous avons Dimanche Kamate, journaliste à la radio communautaire Moto Oisha, une radio qui émet depuis Béni au Nord Kivu. Dimanche, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Le menu présenté, le décor planté, Berry Franklin Louchaka qui est à la présentation vous dit merci et bienvenue à votre émission Tribune de la Presse. Les débats sont ouverts. Et avant d'entrer dans le vif des sujets de ce début de week-end, nous allons lire la presse avec vous, Alain Hirung.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par parler de la situation au Burkina Faso, où le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir vendredi dernier suite à la pression populaire. L'Observateur titre dans son éditorial « Parlement de la honte ». Le confrère d'indiquer « qu'est pris, qui croyait prendre ». Ce dicton s'applique au Parlement burkinabé et avec lui tous les parlements africains qui lui ressemblent puisqu'il y en a beaucoup. Il est de notoriété publique qu'à quelques exceptions près, et quelle que soit l'affection qu'ils lui ont témoignée, les peuples tournent carrément le dos à un chef de l'État dès que celui-ci se met à émettre des signaux allant dans le sens de s'éterniser au pouvoir. Le Phare signale, pour sa part, Burkina Zida promet une transition dans un cadre constitutionnel. Contesté dans la rue et sous forte pression internationale, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a promis lundi une transition dans un cadre constitutionnel laissant entrevoir un passage de flambeau aux autorités civiles. Pour clore ce sujet, le potentiel tire la sonnette d'alarme. Révolte burkinabé, la société civile burundaise avertit Nkurunziza. Concernant le rapport Doing Business 2015, l'agence congolaise de presse rappelle que ce rapport, publié le 29 octobre 2014, n'a pas pris en compte les réformes réalisées par le gouvernement congolais qui a amélioré l'environnement des affaires au cours de cette année. C'est ce qu'a soutenu le vice-ministre du plan Sadok Biganza. Pour la prospérité, la RDC doit se maintenir dans le top 10 afin de bénéficier de l'effort promotionnel du rapport Doing Business 2016. Pour ce faire, il y a nécessité d'application d'au moins 4 à 5 réformes pour gagner 4 à 5 points de distance de la frontière. Cette atteinte n'est possible qu'avec l'appui et la contribution effective de tous les ministères, services, sociétés, établissements publics pour élever les défis d'importance de l'appropriation institutionnelle des réformes. Radio-Capi.net enseigne que si la RDC maintient son rang de l'année dernière, 184e, l'institution de Bretton Woods note que le pays figure parmi les 10 économies sur les 189 couvertes par Doing Business qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année. Dans les autres sujets d'actualité, Forum des As revient sur le suspense qui continue de planer sur les motions de défiance contre les deux membres du gouvernement, Moussoungaï qui tébit de report en report. Frappé par le deuil d'un député, l'Assemblée nationale renvoie la comparution des deux ministres à ce lundi. Le palmarès enfin s'étend sur la grève des magistrats en constatant qu'hier, Kalamu et Kasavubu ont interrompu des audiences.
Merci Alain Hirung. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, il y a eu notamment l'an 1 de la fin de la rébellion du M23. Joël Kadidanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Quel bilan tirez-vous un an après la fin de la rébellion du M23?
Bon, un an après la rébellion du M23, c'est le bilan, c'est la mort de celui qui avait porté les fards d'essai dans cette victoire, le colonel Mamadou Ndala. Un an après, c'est la mort du général qui avait commandait pratiquement les opérations, Jean-Lucien Bauma, paix à leurs âmes, respect à leur mémoire. Et un an après, c'est comme si le M23 s'est revengé encore parce que les deux qui avaient mené cette guerre comme commandant des opérations ont été tués dans des conditions que nous connaissons tous et qu'aujourd'hui, le M23 est en train de revenir en tuant, en massacrant à Beni pendant qu'on nous dit que ce sont les ADF Nalu qui ont été donnés au départ comme les assassins de Mamadou Ndala, ce qui est maintenant confirmé qu'il s'est agi des mensonges ou même certaines autorités congolaises sont associées et complices.
Et donc vous voulez dire que l'insécurité est toujours grandissante au Nord-Kivu en général?
Tout à fait, peut-être que ça cessait d'une manière où la guerre était entre les militaires, mais aujourd'hui vous avez vu ceux qui ont été tués à Beni, ce sont des civils, c'est vous dire que le M23 est encore en train d'opérer pendant que parce que les deux qui ont mené la guerre ont été tués.
En fait, ils opèrent plus en tant que M23, mais ils opèrent sous une autre casquette, est-ce que vous voulez dire?
Sous une autre casquette, comme des terroristes maintenant, l'aîné Diana l'avait dit la semaine passée.
Alors, justement, je me tourne vers vous, Diana Gikoupa. Vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. On constate que le M23 n'est plus actif. D'abord, est-ce que vous partagez le même point de vue que Joël Kadé?
Bon, à un certain niveau, mais je ne peux pas partager totalement son point de vue. Mais tout ce qui est vrai, c'est que après la guerre du M23, un peu, je crois que vous avez lu les albums Tintin, l'expédition des scientifiques qui sont allés, qui avaient récupéré, ont été tués par les 7 boules de cristal.
Oui.
Ils sont morts un à un. Et un peu, c'est comme si, effectivement, le Rwanda et l'Ouganda, qui ne peuvent pas digérer cette défaite, qui s'étaient présentés comme les armées les plus fortes et tout ça, qui, en fait, basait sa force sur de complicité au sein de l'armée, a entorpillé l'armée congolaise par des intrus. Il avait suffi que cette stratégie soit découverte, qu'on change la chaîne de commandement, qu'on change les troupes, et ainsi de suite, et que le M23 n'a pas tenu 2 semaines. Alors, cette défaite, il ne la supporte pas. Et ils la font subir d'abord à Mamadou Ndala qui a affiché son patriotisme, on l'a vu au front le drapeau du Congo au
cours. Et on l'a applaudi pour ça.
Tout à fait. Mais là où je ne peux pas supporter, il y a une phrase malheureuse de Moko de Bater, quand il dit les autorités congolaises seraient complices soit des massacres, soit de la mort de Mamadou Ndala.
De toute façon, vous n'êtes pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, moi j'ai une compréhension de ce que l'on appelle autorité, j'ai une compréhension, j'ai le respect de ce qu'on appelle. Mais les gens qui se battent pour le pouvoir, mais qui désacralisent le pouvoir tout le temps, qui expliquent l'opposition c'est sacré alors que le pouvoir c'est diabolique, donc parce qu'on est diabolique alors qu'ils se battent pour ce même pouvoir, mais tout ça c'est faire du théâtre de chez nous. Lorsque vous faites croire que les autorités, les mêmes autorités qui veulent que mettre fin, qui ont mis fin au M23, parce qu'on avait même dit au M23 qu'ils n'avaient pas l'armée, on a demandé qu'on a l'armée, on voudrait mettre fin aux ADF Nalu, et les mêmes autorités tuent les 16. Non, je pense que ça, il faut être dans un univers comme aime l'être notre opposition ici avec ses acquaintances médiatiques, confessionnelles et associatives. Donc, tous ces gens-là qui sont dans cet univers du théâtral, ils peuvent jouer au théâtre, c'est possible.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la position de Joël Kadi, mais en même temps, on constate aussi que le M23 qui n'est plus actif et la sécurité n'est toujours pas au rendez-vous au Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe selon vous?
On ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que du jour au lendemain et ça sera la paix. On constate, c'est pourquoi nous nous déplorons lorsque nous voyons des opposants congolais venir marcher, faire les sit-ins devant la MONUSCO, ABCC, ou soulever la population contre la MONUSCO, alors qu'ils devraient soutenir, qu'ils devraient aller marcher contre les pays. Et soi-disant pour demander le dialogue, il devra aller marcher devant des pays de la Sirgel qui se sont engagés. L'accord qui a été signé, l'accord 4, ce n'est pas un accord de la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique et qui doivent. Non, c'est l'accord des pays et la MONUSCO, les États-Unis ne sont que des gens qui vont les accompagner. S'ils veulent le dialogue, ils n'ont qu'à aller le demander aux pays de la Sirgel. Alors, les gens, au lieu de marcher pour dire que non, voilà, la paix est revenue et que voilà maintenant le Rwanda et l'Ouganda ne respectent pas leur engagement, continuent à mener la guerre d'une autre façon, ils vont marcher contre les gens qui se battent. La même chose, on dit, oh, le gouvernement, la même chose, on dit, ah, c'est la MONUSCO qui laisse faire.
Alors,
la même chose.
On va écouter Dimanche Kamate. Dimanche Kamate, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Oisha, une radio qui émet depuis Beni au Nord Kivu. Justement, on va revenir sur l'actualité, une autre actualité de la semaine, mais en dehors de couvre-feu qui a débuté en début de semaine, quelle est l'autre actualité de la semaine que vous pouvez partager avec les auditeurs de Radio Capi?
Oui, chers confrères, avant juste de donner cette actualité, je voudrais d'abord dire ceci, hein, et non pour l'affaire du M23, pour nous, constitue une révélation en fait, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de comprendre que dans les FHDC, il y a même ceux-là qui jouent la politique à double vitesse. Alors que les militaires ne doivent pas faire la politique, nous sommes parvenus à comprendre que les FHDC étaient filtrés. Parce qu'au niveau de Beni, c'est tout le monde qui est maintenant surpris de constater que dans les FHDC, c'est là qu'on trouve des gens qui auraient commandité la mort du général Mamadou. Et ici, en territoire de Beni, nous sommes en train d'assister à une résurgence d'une nouvelle rébellion, si on peut le dire ainsi. Parce que l'M23 est parti, nous voilà dans un intervalle de un mois, il y a plus de 100 personnes qui ont été tuées et on ne sait pas qui. Les gens sont en train de parler des années de Nalou et on semble croire qu'une nouvelle rébellion aurait déjà trouvé naissance au niveau de cette partie. Alors, une autre actualité qui domine ce coin, c'est juste la reprise des cours pour ce lundi. Parce que pendant ces un mois, la population, les élèves ne se rendaient pas à l'école, mais au moins dans une grande rencontre vraiment, dans un débat très houlé qui s'est passé à Ouïta, on s'est convenu que le lundi, tous les blés blancs doivent donc réapparaître sur les goutrons partout en territoire de Beni et de
l'Ifanté. Ok, alors vous êtes précisément à Beni, là où le couvre-feu a été décrété en début de semaine. Aujourd'hui, si vous devez faire un bilan 5 jours après, qu'est-ce que vous nous direz?
Bon, monsieur Berry Franklin, nous ne pouvons pas dire que le couvre-feu n'est pas en train de produire des résultats positifs. Il y a quand même certains signes de résultats positifs produits, mais c'est la population qui est en train de végéter. Parce que quand on dit qu'on puisse se trouver au lit à 18h, mais la population n'est pas à confondre aux poules. Ce sont des poules qui peuvent se retrouver juste à l'intérieur de la maison à 18h. Mais la population est obligée, elle est contrainte vraiment de se retrouver au lit à 18h, alors que Beni, c'est une ville où la population vit au taux du jour. Et donc, d'une part, on peut dire qu'il y a le positif qui est fait, mais c'est le négatif qui est...
qui prédomine. Merci.
Tout le monde qui est en train de se poser la question, est-ce que le maire a-t-il été conseillé pour qu'il prenne une mesure pareille? Donc, la population est en train de se lamenter, mais je pense que ça va aller, parce qu'il faut toujours exprimer...
Merci.
Il faut réaliser une expression d'appartenance, surtout que le vrai ennemi n'est pas aussi connu.
Voilà, merci beaucoup Dimanche Kamate. Je rappelle que vous êtes à Beni et vous nous avez brossé l'état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, 5 jours après le couvre-feu. Nous allons passer au premier thème de débat de ce soir, c'est justement l'affaire Burkina Faso. Alors, dans ce pays, au Burkina Faso donc, les manifestations contre la révision de l'article 37 de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels ont précipité la démission du président Blaise Compaoré vendredi dernier. Après 27 années au pouvoir, le président burkinabé Blaise Compaoré s'en va sous la pression de la rue et sa tentative de révision de l'article 37 de la Constitution lui permettant de briguer un 5e mandat a été la goutte qui a fait déborder le vase du mécontentement populaire. Les détails avec vous, Alain Irung.
Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir en 1987 suite à l'assassinat de l'ancien chef de l'État Thomas Sankara. La constitution du pays a été adoptée en 1991 et promulguée une année plus tard. Cette constitution a connu en tout et pour tout 6 modifications, dont celle de janvier 1997 pour lever le verrou de la limitation du mandat présidentiel, celle d'avril 2000 pour amener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et celle de janvier 2002 pour pourrait introduire sa limitation renouvelable une fois. De toutes ces modifications, on retiendra l'article 37 qui stipule, je cite, « Le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois. » Fin de citation. C'est justement cet article qui est la clé du soulèvement de la population. Les événements sont partis très vite. Il y a 2 semaines, le président avait introduit une proposition de modification de l'article 37 au Parlement afin de se présenter en 2015. L'opposition burkinabé s'est montrée catégorique face au respect de cet article de la Constitution. Elle s'appuie pour se faire sur la population pour barrer la route à cette tentative. De grandes marches ont été organisées, dont la plus importante reste celle du mercredi 29 octobre dernier, lorsque les parlementaires devraient statuer sur le plan de Campaoré. Conséquence, le siège du Parlement assiégé est incendié par la population en colère, s'ensuit les communiqués annonçant l'état de siège, la dissolution du Parlement et le lendemain dans la journée, la démission du président Blaise Campaoré. Entre-temps, en Afrique, plusieurs pays sont concernés par des possibles tentatives de modification de la Constitution pour allonger le mandat présidentiel. C'est le cas du Burundi, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et de la RDC.
Alors, Diana Gikoupa, comment votre rédaction a-t-elle accueilli cette actualité?
Oui, en tant que sankariste, nous n'avons pas versé la moindre larme au départ de Blaise Compaoré, cela s'entend. Et en ce qui concerne l'analyse des événements eux-mêmes, nous avons constaté que, en fait, la population qui est descendue dans la rue n'avait pas une direction claire. Pour une révolution, c'est bien regrettable qu'on ne soit pas dans la rue sans savoir ce qu'on veut. On est allé dans la rue d'abord pour que la Constitution soit respectée, que l'article 37 ne soit pas modifié. Mais en fait de compte, aujourd'hui, on se rend compte que la Constitution est suspendue. On est en train de se battre. Donc, la Constitution pour laquelle on s'est battu, elle est la première victime de... Il n'y a pas que Compaoré qui a fui, il n'y a pas que les autres qui ont fui, mais il y a aussi la Constitution elle-même qui a été suspendue.
Oui, mais ce mouvement lancé par le peuple burkinabé est bien loin de la classe politique. Est-ce que ce n'est pas une leçon pour le peuple africain?
Bon, une leçon, ça ne sera pas la première. Nous avons eu la première leçon en Tunisie. Le président Ben Ali est parti. Aujourd'hui, poser la question aux jeunes révolutionnaires, ils sont déçus. Parce qu'avec les dernières élections, ce sont les Ben Ali qui sont revenus au pouvoir. Ils ont été chassés par la rue, ils sont revenus par les urnes. Ils sont là.
Peut-être que c'était l'homme qui dérangeait.
Oui, mais c'est ça le problème, de s'attaquer à l'homme au lieu de s'attaquer au système. En Égypte, c'était la même chose. Je me demande aujourd'hui la révolution avait été bien menée à tel point qu'il y a eu des morts, vous avez suivi, on est passé par Morsi, et puis le frère musulman, et aujourd'hui les militaires comme Moubarak sont revenus au pouvoir légitimés par les élections. Et qu'est-ce que je peux dire de la Libye? Le pays n'existe pratiquement plus après cette révolte. Voilà autant de leçons. On peut descendre au Burkina. Au Burkina, maintenant, la même communauté internationale qui n'a pas pu soulever son doigt pour demander à Compaoré de ne pas changer la Constitution, aujourd'hui, elle s'érige en défenseur de la Constitution. Non, on doit... Mais lorsque Compaoré bouscule, il voit qu'effectivement la rue, il dit, je comprends le langage de la rue, venez nous négocier pour mettre en place une transition qui va aboutir.
Mais est-ce que ce n'était pas tard, ça demande?
Mais ce n'est pas tard, le respect de la Constitution, ce n'est pas tôt ni tard, puisque l'objectif c'était de respecter la Constitution.
Donc, à vous entendre, les présidents africains n'ont pas de leçons à tirer de ce qui s'est passé au Burkina Faso.
Mais pourquoi? On a des leçons à tirer. Nous ne tirons pas des leçons en Libye.
Quelles leçons, par exemple?
En Libye, par exemple, on constate que pour peu qu'on peut dire qu'il y avait moyen de réformer le régime Kadhafi, comme peut-être on l'a fait, parce que la Libye qui est aujourd'hui est beaucoup plus inquiétante que la Libye sous Kadhafi. Ce qui est arrivé en Égypte, ce qui arrive en Tunisie, je pense qu'il y a autre moyen de réformer. Tous les pays sont passés par là. La France, les États-Unis, il n'y a aucun pays qui dit qu'il a installé sa démocratie et directement les choses ont marché comme sur des roulettes, ils sont arrivés à ce niveau. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer. Beaucoup, beaucoup de leçons. Mais je ne verse pas dans les illusions optiques de certains politiciens qui pensent que, puisque c'est arrivé au Burkina, d'abord, si on peut y aller par comparaison.
Non, allez tout droit, allez, finissez votre
phrase. C'est ce que j'ai dit. Burkina Faso, on tire des leçons. La première leçon, c'est que Burkina Faso n'est pas le Congo-Brazzaville. Burkina Faso n'est pas Kinshasa. Au Burkina Faso, aujourd'hui, lorsqu'on a bousculé le pouvoir, mais il n'y a pas eu un coin de Burkina Faso où il y a des groupes armés qui pouvaient au même moment dire « Ah, comme le pouvoir est déstabilisé à Kinshasa, et nous prenons le pouvoir ici. » Ce n'est pas... Donc, ce qui veut dire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, c'est arrivé à Kinshasa. Eh bien, nous avons béni, nous avons... Boutembo, les gens peuvent dire « Ah, le chef n'est plus là. » Donc, occupons des villes. Donc, Burkina Faso, tout s'est passé contre. Donc, ce sont autant de leçons que nous devons tirer.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre la température à partir de Béni. Alors, dimanche, Kamaté, est-ce que la population locale a suivi les événements du Burkina Faso?
Oui, nous sommes en train de suivre cette actualité, chers confrères.
Est-ce que vous partagez le même avis que Diana Gikoupa?
Bon, partager le même avis, pas du tout, mais je vais dire ceci, monsieur Philippe Berry Franklin. Si aujourd'hui le président burkinabé Blaise Compaoré est chef du pouvoir, cela prouve en substance que le peuple burkinabé en avait déjà marre. Être élu pour la première fois, pour la seconde, et on vient encore se faire élire ou passer ou récupérer le troisième mandat. Mais moi je me dis, c'est trop. Un président élu une fois, deux, pour la troisième fois, mais il risque fort d'éponger la population dans une guerre civile. Tous les dirigeants africains, ils doivent tirer des leçons à ce qui est arrivé à Blaise Compaoré. Parce que tous les dirigeants africains qui veulent rester éternellement au pouvoir, moi je vois qu'ils ne se soucient pas de la population.
Alors,
comment quelqu'un peut accepter de rester 27 ans au pouvoir, s'il vous plaît, 27 ans, c'est tout.
Alors,
ce n'est pas une dynastie.
Alors, ça veut dire pour vous que ce qui s'est passé au Burkina Faso peut avoir un impact sur la RDC?
En tout cas, un impact très positif. Parce que nous sommes en train de le suivre, M. Berry. Même si nous sommes régis par une stratégie de terreur qui affectait la sécurité, même si notre vie quotidienne est loin de la joie et de la liberté, même si des prêtres et des religieux sont frappés, torturés ou même tués parce qu'ils dénonçaient toujours la mauvaise gouvernance du régime à place, un jour les futurs nous diront la vérité et comme ils sont entrés de gérer très mal ce pays, moi je sais que le peuple un jour va dire attention, nous ne voulons pas être dirigés de cette façon, nous voulons qu'on soit dirigé tout en respectant les droits de la population. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, il est chassé par la rue. Est-ce que la rue hésite? C'est dans la rue qu'on rencontre des gens qui ont formé les ministres, qui ont formé le président, qui ont formé les députés. Mais aujourd'hui, cette rue dit attention, nous ne voulons plus de vous, et donc rendez-vous ailleurs.
Merci beaucoup.
L'éveil de conscience doit se retrouver chez les Africains, et c'est important.
Merci beaucoup, dimanche Kamaté, depuis Béni. Alors, Joël Kadé, vous partagez lequel des deux avis? Parce que Diana Gikoupa ne partage pas le même avis que celui de dimanche Kamaté. Vous vous situez dans quel camp?
Non, je n'ai pas de camp à prendre, cher confrère. J'ai besoin de mettre mon point de vue. Mais avant de répondre à cette question-là, une petite incise pour dire ceci, que je n'ai pas dit des autorités complices, ça veut dire sur le chef de l'État, sur le Premier ministre. Il y a des colonels qui ont été arrêtés dans l'affaire Mamadou Ndala. Nous suivons le procès. Est-ce qu'un colonel, ce n'est pas une autorité? Pourquoi on doit limiter autorité à tout simplement au chef de l'État? Donc, pour...
C'était une incise. Voilà.
Justement, pour répondre, je crois que les intelligences au service du mal en RDC doivent apprendre des leçons de ce qui vient d'arriver au Burkina Faso.
C'est-à-dire?
Ce qui vient d'arriver au Burkina Faso, c'est une réponse à tous ceux des professeurs d'université, à tous ceux des journalistes, à tous ceux des laborantins du pouvoir de comprendre que la rue africaine, pas la rue burkinabé, la rue africaine de Brazzaville, la rue africaine de Kinshasa, la rue de Beni, la rue de Kigali, la rue de Bujumbura a dit non au changement des constitutions ou à la révision des constitutions pour maintenir un individu au pouvoir. Donc, que vous puissiez comprendre que le peuple africain ne veut pas que vous puissiez prolonger le pouvoir. Parce
ou
que, par exemple,
de constitution.
Pour changer de constitution, c'est tout le peuple africain qui a dit. Vous savez, très chers confrères, on peut tromper un peuple une fois, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc, à un certain moment, les gens vont se fatiguer, même si aujourd'hui, ici, on a imposé la terreur, c'est la gestion par deux filles, c'est la gestion par terreur, on peut terroriser, on peut traîner plusieurs... Je vous dis qu'au Burkina Faso, j'ai vu un hélicoptère qui était en train de déverser sur la population les gaz lacrymogènes, mais la population a dit, niet, nous ne voulons pas décompaorer. Qu'on évite de faire des constitutions taillées sur mesure.
Et vous pensez qu'à Kinshasa, les choses peuvent se passer de cette manière?
Je crois que tous les laborantins, toutes les intelligences au service du mal sont en train de revoir leurs calculs. Et d'ailleurs, il y a eu certains experts, ces intelligences, ces laborantins du mal qui ont été dépêchés à Burkina Faso. Ils ont été même bloqués là-bas, tout simplement pour vous dire qu'ils sont au service du mal. Donc, c'est vous dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, ne s'est pas encore prononcé pour dire qu'il était pour la révision de la Constitution. Ça veut dire, je voudrais chuter, donc, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Mais tous ces laborantins du mal qui voulaient le prendre comme leur bouclier humain, parce qu'ils sont commis des gaffes lorsqu'ils étaient gestionnaires à la SNEL, directeur de cabinet du chef de l'État, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'ils étaient partout là-bas, ils ont commis des gaffes. Alors ils veulent se servir du chef de l'État comme leur bouclier humain pour qu'ils ne soient pas poursuivis après le départ du chef de l'État. Mais je crois qu'il ne va pas accepter de partir à la pendaison pour que les autres restent organisés ces obsèques. Je crois qu'il va entendre ce que la rue burkinabé a dit, poursuivre cela parce que cela peut également se répéter à Kinshasa. Les gens disent non, la population congolaise est amorphe, tout ça, mais je vous rappelle qu'en 1998, la population quinoise a arrêté les militaires avec les armes, les a désarmés, et certains auraient été même boutés dehors. Donc c'est pour vous dire que la population congolaise est très forte, et un jour elle dira son mot.
Alors on va donner une minute à Diana Gikoupa. Comment vous réagissez face à toutes ces réactions de vos confrères?
Bon, vous savez que nous sommes, parlant de mon pays, nous sommes dans un pays où les gens pensent.
Voyons
que...
les choses aussi en général, parce qu'il y a aussi Kigali, le Rwanda,
tout à fait,
il y a aussi Bujumbura,
tout à fait, j'en arrive.
Il y a aussi le Togo.
Tout à fait, j'en arrive. J'aime partir de chez moi pour aller vers l'extérieur, pas la déduction. Je veux dire ceci, qu'il y a, nous sommes dans un pays où les gens croient qu'il suffit des incantations, il suffit de crier fort, les choses changent. Rien ne change. Et cela empêche les gens, justement, lorsqu'on est dans des incantations, dans des histoires, d'entendre raison. J'apprends ici que il y a ici, dans ce pays, des prêtres qui sont tués pour avoir donné leur avis. Moi, je ne boucle jamais mon journal sans avoir lu la radio la mieux informée aujourd'hui, qui est représentée dans tout le pays, c'est la radio Okapi. J'ai jamais trouvé une telle information. Mais je l'apprends de Béni que les prêtres sont tués.
Et peut-être que Radio Capi n'a pas cette information.
Mais c'est ce que j'ai dit. Je suis étonné que dans ce pays, on tue des prêtres. Je suis étonné.
À l'Odia, bon. Les religions ont été tabassées.
Et là, j'aimerais aussi entendre cette intervention rebelle. C'est pour dire que quand on dit autorité, ça veut dire... Une certaine légitimité et un chaîne de commandement. Quelqu'un ne peut pas dire quand quelqu'un, il va chercher les femmes dans la rue, un général va chercher les femmes dans la rue, vous allez dire l'autorité cherche les femmes dans la rue.
Voilà.
Non, en fait, n'a rien à voir. Donc, s'il y a quelqu'un de membre du parti à l'Odia, c'est pourquoi j'ai dit Burkina Faso n'est pas le Congo. À l'Odia, la politique s'est faite avec des muscles. Comme il y a des prêtres qui voulaient faire la politique comme... Mais comment vous voulez qu'on tape le Tundula, on tape chez Okitundu à l'Odia et qu'on ne tape pas les prêtres qui font la politique, la même politique, avec le même droit? C'est très tout bien. À fait normal.
Alors, dimanche Kamati, vous avez suivi une sorte de réponse de la part de Diana Gikoupa. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation du manière générale?
Non, oui, chers confrères, moi je veux dire ceci, hein, le peuple africain en général, tous les Congolais en général, ils doivent se trouver dans un éveil de conscience. Il ne revient pas aux dirigeants de nous dire qu'ils sont en train de travailler bien. Il revient à nous, population, de dire, ici ça va, et là ça ne va pas. Oui. Et donc, lorsque les choses ne sont pas en train de marcher convenablement, il faut que le peuple puisse se dire, non, Nous ne voulons pas être dirigés de cette manière. On ne peut pas accepter d'être fiés alors qu'il y a des gens qui se présentent comme nos protecteurs. Nous devons donc voir de très loin pour que nous puissions juste nous retrouver dans un état de conscience, parce qu'on est longtemps resté dans cette léthargie, on est longtemps resté dans cette nonchalance. Et cette nonchalance, c'est que nous ne soyons pas en désir, n'est-ce pas, d'accéder à nos droits. Et donc, je vais lancer un appel à tous les Africains, à tous les Congolais en particulier. Les autorités sont les nôtres, nous devons les protéger. Mais elles aussi doivent apprendre à nous protéger, étant donné qu'on est appelé à bien protéger les gens qu'on est censé diriger. Parce qu'on ne peut pas être dirigeant des gens qui ne sont plus à vie. Et donc, merci. Si nous sommes tous les Congolais, ce pays nous appartient, l'Afrique nous appartient, ainsi donc nous allons mettre fin à cette mauvaise gestion de la République.
Merci beaucoup. Alors Joël Kadé Danga, on a constaté que la société civile a beaucoup joué au Burkina Faso pour que les manifestations arrivent jusqu'à ce stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
en très peu de temps? En un mot, la société civile congolaise a travaillé en 92. C'est la société civile qui avait ouvert les portes de la conférence nationale souveraine.
Mais elle est multiple aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui elle est multiple. Elle a été multipliée par le stratège du pouvoir, c'est tout simplement pour créer la confusion. Et vous allez vous rendre compte qu'à Lubumbashi, par exemple, au Katanga, il y a Jean-Pierre Moteba et l'ensemble de la société civile du Katanga qui a été voir les autorités sud-africaines qui avaient pratiquement piloté le dialogue intercongolais pour leur dire, faites très attention, nous n'avons pas besoin que le sang coule chez nous, parce qu'au Burkina Faso, il y a eu le sang qui a coulé. Tous ceux qui sont en train de penser à la révision constitutionnelle savent qu'il y aura des conséquences fâcheuses, qu'il y aura des frères, des sœurs qui peuvent mourir. Mais comme ce sont des gens sensible au coulement du sang. Vous voyez, plus de 100 personnes sont mortes à Beni, pas même un deuil national. Les députés de ce coin, pas même une motion d'interpellation. Ils sont focalisés sur des petites histoires. Donc, c'est justement pour vous dire que nos frères comprennent que nous avons besoin de la paix dans ce pays.
C'est un appel à l'éveil que vous lancez finalement.
Docteur Mukwege de la société civile, il a lancé l'appel depuis Bruxelles pour dire, s'il vous plaît, ayons pitié de notre peuple, respectons notre constitution. Si vous voulez changer la constitution, inscrivez cela comme votre projet de société pour le prochain mandat. Quand vous allez encore avoir le pouvoir pour votre parti, pour la majorité présidentielle ou pour l'opposition, vous allez inscrire cette question-là à l'ordre du jour, au lieu de bousculer toujours les choses à l'approche des élections comme Bochab l'avait fait à l'approche des élections 2011.
Merci beaucoup. Nous entrons finalement dans le deuxième thème de notre débat de ce soir. Rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, classé 184e sur 189 pays. La RDC figure parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires. Ceci à travers notamment la mise en place du guichet unique qui a facilité la création d'emplois. Cependant, Doing Business indique entre autres que l'obtention du permis de construire est devenue plus difficile suite à l'augmentation des frais. Et des précisions nous sont données ici par François Kadima.
Disons que les 10 pays sont classés meilleurs pour avoir entrepris des réformes dans les différents domaines pour la stabilité de leurs économies. Pour la RDC, le rapport souligne que le pays a, à travers la création du guichet unique, rendu plus facile la création d'entreprises. Il a aussi amélioré l'accès à l'information sur les crédits en établissant les registres de crédit. Doing Business note également le renforcement de la loi sur la protection des investisseurs minoritaires et la facilité dans le processus de paiement des impôts pour les entreprises avec la simplification des déclarations d'impôts sur les revenus des sociétés. L'une des réformes signalées aussi, c'est le raccordement à l'électricité qui, selon ce rapport, est devenu plus accessible avec la réduction des nombres d'autorisations pour les nouvelles connexions. Mais Doing Business note malheureusement que l'obtention des permis de construire est devenue plus difficile suite à l'augmentation des frais. Signalons que sur les 10 réformes mesurées par Doing Business pour l'amélioration du climat des affaires, la RDC et la Côte d'Ivoire ont entrepris chacune des réformes dans 5 domaines par rapport au Sénégal qui est à 6 parmi les pays africains.
Alors il nous reste moins de 10 minutes pour ce deuxième thème. On va être un peu plus bref dans nos commentaires. Alors Dimanche Kamate, est-ce que la RDC a réellement fait des avancées dans l'amélioration du climat des affaires en RDC?
Je veux dire ceci, cher confrère, cette théorie de l'amélioration dans les climats des affaires, c'est une théorie qui n'est pas bien comprise par la population du temps séquent, mais à un certain niveau, je veux dire, le pays est en train de connaître ou de marquer et pas. Mais néanmoins, nous devons juste faire voir cela dans toute la partie de la République. Parce que ici, dans la partie Est, particulièrement en territoire de Béni, lorsque vous parlez de l'annulation à l'état des affaires, les gens ne vont pas vous comprendre. Mais plutôt lorsque vous dites, voilà, demain, il y aura des gens qui vont accéder à l'emploi, il n'y aura plus notre élevé des chômeurs. C'est à ce niveau qu'on peut vous comprendre très facilement. Donc cette annulation dans le climat des affaires n'est pas une chose qui est comprise par la population à partir de l'Est.
Alors on va prendre un exemple concret. Dans le rapport d'une business, on dit que l'accès à l'électricité est devenu un peu plus facile. Est-ce que c'est le cas au niveau de Béni?
Mais mon cher ami, je vais vous dire ceci. D'ailleurs, je profite de cette occasion. En 2006, il y a eu la population qui a exprimé son besoin au chef de l'État parce que c'était la période de la campagne. Il y a un courant, un vieux modèle qu'on avait présenté à la population d'Ovita ici. Jusqu'aujourd'hui, ça ne travaille pas. Donc l'électricité et ainsi de suite, ce sont des théories qui n'existent pas. Et ici, chez nous, nous disons, il faut que l'on compte aussi sur la partie Est. Parce que l'électricité dont vous parlez, mais ici, on ne voit presque rien. Il n'y a rien ici, monsieur Berry. Donc, cette théorie n'est pas une matière qu'on peut présenter aux gens qui habitent les territoires de Béni particuliers, en général, toute la population du Nord, si vous.
Ok, merci beaucoup. Alors, Joël Kadé Danga, quelle lecture vous faites de ce rapport, un peu plus rapidement?
Non, nous ne pouvons que féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour une fois, vous avez senti que nous avons été cités parmi les 10 pays qui ont amélioré leur climat des affaires.
Qui ne se fait pas sentir à l'intérieur du pays.
Bon, c'est qui ne se fait pas sentir, tout à fait, mais dire qu'il y a eu amélioration, ça ne veut pas dire qu'on a fini, c'est qu'il y a encore des efforts à fournir dans le cadre d'amélioration du climat des affaires. Tout ce qu'il y a à faire, c'est félicitations à Matata Ponyo, qui a imprimé une nouvelle dynamique qui permet aujourd'hui que l'on puisse parler en bien de notre pays, bien que nous ayons gardé la même place. Mais là où il faudrait qu'on ajoute, parce que l'amélioration de ces conditions, c'est uniquement pour de grandes entreprises. Je l'avais dit la fois passée, pour des grandes multinationales qui sont dans le mine, qui sont dans le pétrole. Mais les petits commerces, vous allez voir combien ils subissent la pesanteur de nos politiques.
Mais on a parlé aussi de l'amélioration de l'octroi des crédits.
Non, l'octroi des crédits, mais qui accorde le crédit, ce sont les banques qui sont d'une manière générale des banques étrangères, qui n'accordent le crédit qu'à leurs compatriotes. Je ne vois pas certains Congolais, la plupart des petits ici qui ont accès au crédit. Il n'y a que des petites ONG qui exproprient les gens comme Habitat Social. Quand on vous accorde un crédit de 1000 dollars, vous devrez remettre 40% de crédit. Donc c'est justement pour vous dire, tout ce dont nous avons besoin maintenant de notre gouvernement, autant on a amélioré le climat des affaires pour les grandes entreprises, pour les étrangers, qu'on puisse voir les petits commerces, les petites boutiques, au lieu qu'ils subissent pratiquement la rigueur de policiers qui leur ravissent des histoires de faux marchés pour voir comment ces mamans-là qui n'ont pour un capital que 5000 francs, mais il faut voir combien ils subissent les caprices des policiers qui passent pour les tracasser. Je crois qu'il y a lieu d'améliorer pour que nous gagnions encore des places, qu'on soit centième ou cinquantième pays sur le nombre de pays couverts par Doing Business.
Et donc dans ce que vous dites, ce que vous venez de dire là, c'est une façon pour vous de matérialiser les avancées de ce rapport d'une business.
Oui, c'est-à-dire il faudrait qu'on améliore. Améliorer là, il ne faudrait pas que ça concerne seulement Kibal Gold Mining. Il ne faudrait pas que ça concerne Tenke Fungurume Mining. Il faudrait aussi que ça concerne l'entreprise de presse Impact News, que ça concerne la Colombe, que ça concerne des petites entreprises commerciales congolaises, que ça concerne des magasins des Congolais. Il ne faudrait pas qu'on sente que les Congolais sont vraiment asphyxiés avec des taxes pendant que les étrangers et aujourd'hui, ils peuvent facilement en un jour obtenir quand même une autorisation de créer une entreprise. On peut créer une entreprise dans un jour, pendant que pour les Congolais, depuis que nous avons payé par exemple les renouvellements du récépissé, on ne sait pas vous accorder l'autorisation de poursuivre votre travail, votre entreprise.
Alors Diana Gikoupa, qu'est-ce qui reste à faire pour que la RDC gagne encore plus de place dans le prochain classement d'une business?
Bon, le jour où on dira qu'on a tout atteint, et ce jour-là, le pays sera mort. La preuve que le pays marche, c'est qu'on avance. On crée de bonnes conditions, on avance. Quand les conditions sont mauvaises, comme les genres de conditions qu'on nous crée à l'est de la République, le pays stagne. Ce sont des indicateurs objectifs, parfois, donc on ne les imagine pas. Alors, j'aimerais dire c'est ce que Kadé a tenu à préciser qu'il s'agit pour les grandes entreprises, mais il s'agit effectivement des entreprises qui respectent la législation. Les autres, lorsque Kadé veut créer son ligablo, il ne va même pas demander la patente, c'est déjà plus facile pour lui. Il n'a même pas besoin de chercher, l'essentiel d'avoir le coin de sa parcelle, il va papier, mouchoir, consort, ainsi de suite, préservatif et consort, sans que aller demander la moindre autorisation. Et pour lui, qu'est-ce que vous voulez encore que ça soit amélioré pour lui? C'est chez lui qu'on doit demander l'amélioration, d'aller demander une patente et de payer la quittance. Vous savez, quand vous allez dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, vous ne pouvez rien. C'est comme ici chez nous, quelqu'un se place dans la rue sans aucun document, il échange l'argent, il fait tout ça. On ne doit pas tout simplement voir du côté gouvernement, du côté de la population. La population doit prendre conscience que c'est avec ce peu de taxes qu'il paye. Même si vous vendez des arachides, vous payez la taxe à l'État, c'est avec cela que l'État va améliorer la sécurité pour que vous puissiez vendre votre arachide jusque très tard sans qu'on vous dérange, ainsi de suite.
Et c'est ça votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que on peut dire qu'on ne doit pas tout voir partout. Vous savez que parfois on nous dit un pays insécurisé, il y a un pays de guerre. Mais or, quand vous prenez une grande partie du pays n'a pas la guerre, il y a la guerre à l'Est. Alors, il faut que les gens qui sont à l'Est puissent aussi assumer les améliorations qui soient. Nous assumons déjà la guerre qu'il y a là-bas, et aussi qu'ils assument les améliorations qu'ils disent pas là. On dit ça parce que chez nous, nous ne voyons pas.
Merci.
On nous parle de la guerre, nous ne voyons pas la guerre ici, mais nous la sentons, elle est dans notre pays.
Merci, Diana Gikoupa. Alors, Joël Kadé, en conclusion.
Tout ce que la police est en train de récolter en passant des magasins et des boutiques en boutique là, est-ce qu'on vous a même délivré la note de perception de la DGRAD? Mais que les gens ne puissent pas rêver debout, moi je ne comprends pas. Que les gens ne rêvent pas debout, parce que même les policiers des PCR, vous avez tous les documents, j'ai un véhicule, vous avez tous les documents et on va vous créer une contravention qui n'existe pas, notamment la ceinture. J'étais avec les confrères, nous sommes allés à Raga, il a été arrêté pour une contravention qui n'existe pas, il s'est fâché, même en Bénin ici, il a été arrêté en route. Donc moi je ne comprends pas comment les gens réfléchissent comme s'ils vivaient dans un autre monde et que nous, qui sommes sur la terre là, nous connaissons d'autres réalités que eux. Nous avons dit l'amélioration des conditions, c'est pour les grandes entreprises, les multinationales, les petites boutiques, les petites pharmacies, paient la patente, vous allez voir que tout est affiché, mais vous verrez nos policiers aller venir pour prendre l'argent. Et quand on prend cet argent-là, il n'y a aucune note, il n'y a aucune justification, et on paye tout ça, et si vous ne payez pas, on vient vous fermer.
Vous mettre des calames, vous
fermez les boutiques à calame là-bas. Sans tout simplement, sans autorisation.
Ah oui, là, ça devient vraiment chaud dans ce studio.
Diana, je comprends que lui vit d'autres conditions. Nous, nous sommes dans un autre.
Alors, on va donner la parole. Diana, on va donner la parole. Nous allons donner la parole en conclusion à Dimanche Kamaté. Une petite conclusion avant de boucler complètement cette émission.
Voilà, je vais demander à notre gouvernement de nous sécuriser pour que nous puissions aussi voir cette amélioration du climat des affaires. Parce que, suivant Taché, la sécurisation n'est pas encore en fait dans cette partie est du pays. L'amélioration dans le climat des affaires restera toujours une théorie sur papier.
Merci beaucoup, Dimanche Kamaté, c'est par vous que nous finissons cette émission. Et si vous l'avez aimé, dites merci à Alain Irung qui l'a coordonné, réalisé, Julien Nyamweni qui l'a supervisé, Willem Lungamba qui vous l'a fait parvenir chez vous à la maison. Mais moi je dis merci non seulement à tous nos débatteurs, Diana Gikoupa, Joël Kadé Danga et Dimanche Kamaté, qui ont accepté de partager avec nous et vous leurs analyses, mais aussi je vous dis merci à vous pour votre attention soutenue, et à la prochaine. Merci.